Nippé du 60, alias Club Nippé du, avec deux reporters de choc sur le terrain. Bonne émission! Bienvenue dans Nippédu, épisode 60, intitulé le club Nippédu. Alors ce soir, ça va être compliqué parce que il y a un peu de monde et surtout il y a trois Nicolas, dont un marquis, mais on a aussi le marquis de Carabas, donc je sais pas trop comment que je vais présenter les choses. Je vais dire d'abord bonjour à je vais commencer par la gauche. Salut Fabien.
Salut Régis, salut les Nicos. Formule consacrée, je suis extrêmement content de vous retrouver ce soir en mode Nippédu pour ce premier club Nippédu avec les trois Nico. Je te laisse les introduire.
Je vais commencer par celui qui est plus à gauche, deuxième co-animateur, Nicolas Durupt. Salut Nico.
Salut Régis, salut Fabien, bah oui, trois Nicolas, deux marquis, bah, appelle-moi le duc, et puis comme ça tu ne les confondras pas.
The dude. Ensuite, on a Nicolas Le Luerne. Salut Nicolas.
Salut les Nippédus.
C'est toi, marquis.
Ouais, c'est moi le marquis. Bon, je voudrais pas faire concurrence au marquis Carabas, mais bon, comme on fait partie du même club, Jean-Paul Gaultier, donc ça va.
Et on a Nicolas Olivier, alias Nico Guitare. Salut Nicolas.
Eh oui, salut. Bah moi, c'est plus facile, hein, Nico Guitare. Et puis voilà, par contre, je pense que cet épisode devrait s'appeler le Nicopédu quand même, hein, je dis pas. Bon.
Les Nicolas prennent le pouvoir. Donc un épisode en forme de club, j'ai envie de dire club sandwich. Fabien, tu peux en dire quelques mots tout de suite?
Ouais, ça fait longtemps qu'on vous a fait cette proposition-là, à savoir que Nippédu, pourquoi est-ce que ça se résumerait à nos interventions localisées à domicile ou bien sur des couvertures d'événements, puisqu'on ne peut pas se démultiplier, et puis que Régis a la fâcheuse tendance de ne pas pouvoir abandonner son poste pendant la semaine. Donc, on a eu une idée, une fulgurance, on s'est dit, pourquoi pas mettre à profit notre réseau de poditeurs pour vous inviter à vous rendre sur ces événements qui se multiplient sur tout le territoire autour du numérique éducatif et que vous nous en fassiez des petits retours. Donc, par l'intermédiaire de capsules que vous enregistreriez, pas facile à dire, sur place. Et puis, bah, c'est le cas ce soir avec les deux Nico qui nous rejoignent, venir nous toucher deux mots sur les événements que vous avez couverts. C'est ça, le club Nippédu, Régis.
Oui, donc nos deux reporters de choc et de charme, j'ai envie de dire, ont fait des tonnes de capsules sur les événements dont on va vous parler. Et donc, on va essayer d'être rapide dans l'émission pour pouvoir en mettre un maximum aussi. Hein. On passe tout de suite à la parole aux auditeurs.
La parole aux auditeurs.
La parole aux auditeurs.
Alors, la parole aux auditeurs. Rapide petit tour. Je suis allé voir sur iTunes. On a Rossignol Lorraine. Coucou Lorraine. Qui nous a mis... 5 étoiles, j'en vois 7, non, 5 étoiles. Des sujets sérieux, sans se prendre au sérieux, bravo et continuez. Merci Lorraine, merci beaucoup. Un deuxième sur iTunes, alors là, il s'appelle Edugeek Dépendant, L35T4T, j'ai pas trouvé qui c'était. En tout cas, c'est sympa le commentaire, c'est « Attention, ce podcast rend dépendant. Heureusement, le rythme de diffusion permet de savourer chaque épisode comme il se doit. » Encore, eh ben ça continue encore. Merci beaucoup. Et j'ai jeté un œil, ça fait longtemps que j'étais plus sur iTunes, on a que des 5 étoiles. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais que des 5 étoiles, donc c'est vraiment sympa. Et surtout, ça nous aide à avoir un peu de visibilité.
Je crois qu'il n'y a que Nico qui en a mis 2.
Lequel?
Le nôtre.
Ah, c'est pas moi.
Des émissions beaucoup trop tardives, à rallonge.
Ouais, 2 étoiles. Quoi d'autre? Qui veut enchaîner? Fabien, Nicolas?
Ben, je ne sais pas pourquoi il y a une photo de Madame la ministre.
C'est un commentaire de René Chiche sur quand on a couvert la Journée nationale d'innovation, où notre ministre disait « L'enseignant comme l'élève ne cesse jamais d'apprendre ». Et donc on a un commentaire de René Chiche qui est prof de philo, si je ne me trompe pas, j'espère pas dire de bêtises, qui dit « C'est exact, mais tout dépend de la façon de l'entendre. Apprendre ce qu'on enseigne décrit une exigence ». Ça fait presque un sujet de...
Le bac.
De copie de philo.
Ouais,
c'est
là,
ça, c'est ça.
Là, prof de philo un jour, prof de philo.
Bien vu le commentaire. On a Marie Desbrés qui est @triolet sur Twitter, prof en maternelle, qui nous dit « Merci beaucoup de nous permettre de découvrir ces événements de l'intérieur. » Et je pense qu'elle s'adresse surtout à nos deux reporters d'aujourd'hui là, qui ont fait un super boulot. Vous allez l'entendre dans la suite de l'émission. On enchaîne avec les actus ?
Les actus.
Les actus.
Alors, les actus, rapides. Première actu, je me lance, c'est si vous aimez les cahiers pédagogiques ou si vous ne les connaissez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Non, vous avez vu qu'on a la chance d'avoir été... ils nous ont proposé d'écrire une chronique dans les cahiers pédagogiques, une publication vraiment extra, et donc ça mérite d'acheter des... De s'abonner ou d'acheter des magazines au numéro. Si vous connaissez pas, jetez un œil, ne serait-ce que pour la petite chronique de Nipédu qui apporte sa petite contribution. Et on va vous faire gagner dans cet épisode, je l'avais noté plus loin, je crois. Quelqu'un a supprimé ma ligne. On va vous faire gagner dans cet épisode deux numéros des cahiers pédagogiques en mode numérique ou en mode papier. Fabien vous posera une question en fin d'émission. Ça y est, Fabien, tu peux plus te cacher. En fin d'émission, pour faire gagner voilà ces deux numéros du cahier pédagogique, ça vous donnera sans doute envie de vous abonner, en tout cas on l'espère.
Moi je tenais Régis juste à saluer le dernier numéro sur les EPI qui est vraiment excellent, avec un dossier qui est d'une richesse extraordinaire, des regards croisés, des praticiens, des chefs d'établissement, des gens qui sont plus du côté de la théorie autour des sciences de l'éducation ou des observateurs du monde éducatif. C'est très très riche, c'est très dense. Je pense que ça permet aussi de faire la part des choses dans ce dossier brûlant qu'est celui des EPI et de pouvoir, lorsqu'on doit s'y confronter, mais c'est très mal choisi comme terme, lorsqu'on doit mettre en œuvre des EPI, ça permet d'emmener la réflexion plus en avant. Donc bravo au Cahier Péda pour cet excellent dossier.
Toujours dans l'actu, le CLIC 2016 qui s'annonce. Alors ils ont lancé les inscriptions, donc c'est organisé par... toute la clique de l'assos Inversons la classe, que vous devez sans doute forcément connaître si vous connaissez le concept de classe inversée. Donc c'est le premier congrès francophone sur la classe inversée cette année. Il y a vraiment toute la francophonie qui participe. Donc la France, la Suisse, la Turquie, la Belgique, le Canada aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc ils ont lancé les appels à contribution. On vous mettra les liens dans les notes de l'émission. Alors pour les dates, allez-y parce que pour simplement participer, vous avez jusqu'au 12 juin, ça va. Pour contribuer, c'est-à-dire pour proposer un atelier, il faut soumettre ce qu'ils appellent un abstract. J'adore le nom, un abstract en 1000 signes avant le 2 mai. C'est une sorte de pitch, on va dire un petit pitch pour présenter votre atelier, mais vous trouverez ça sur leur site, le site d'Inversons la classe, la glace, n'importe quoi.
La classe, la glace.
Et ils insistent sur le fait que c'est vraiment à partir des projets qui sont soumis que le congrès va être monté. C'est les inverseurs qui vont faire le congrès. Et donc le programme, on vous en reparlera, il sortira le 16 mai, une fois que leur comité scientifique aura sélectionné les différentes contributions et les propositions d'ateliers. Donc allez vraiment jeter un œil, là au moment où l'émission elle sort, vous avez encore 2-3 semaines je crois pour participer. Et ils insistent sur le fait que même les projets qui ne seront pas sélectionnés par le comité auront le droit de présenter des choses le jour du congrès, quoi, sous forme de posters, de choses comme ça, de publications. Donc allez vraiment jeter un œil sur le site ou sur le compte Twitter d'Inversons la classe.
Et Régis,
j'ai déjà beaucoup parlé.
J'en profite juste, puisque tu es sur les appels à intervenants, de vous dire que pour l'édition de cette année de Ludovia 13, on est en plein dans les appels à intervenants. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Ludovia 13, on vous mettra... Nico vous se chargera de vous mettre le lien dans les notes de l'émission. Et qui est-ce qu'on retrouve en photo sur l'appel à intervenants du site de Ludovia 13? Je vous donne dans le mille.
Et ouais, c'est moi.
Il est partout.
Non, mais improbable, improbable.
Comment stalker tous les espaces de par Nico Guitar.
Première partie de l'émission, c'est parti.
Le dossier de Nipédu. Le dossier.
Ah, c'est là où je vais commencer à me taire. Donc, dans la première partie de l'émission, notre première question quand on a des invités, c'est toujours de leur demander de se présenter. Donc, messieurs les Nicolas, dans l'ordre, non, pas dans l'ordre où vous voulez, sinon ça porte à confusion, on va commencer par Nicolas Leluerne, qui es-tu ?
Alors, moi, je suis Nicolas Leluerne, je suis professeur en lycée professionnel à l'UC, à côté de Chartres. Et pour partie, je suis chargé de mission à la DAN. Voilà, et dans ce cadre-là, en fait, j'ai participé une petite journée de travail autour du numérique qui s'appelle Regard sur le numérique.
Et c'est de ça dont tu vas nous parler tout à l'heure. Nicolas Olivier, alias Nico Guitar, alias Tweet comme Nico Guitar, alias l'homme qui est partout. Qui es-tu?
Alors, je suis Nicolas Olivier, professeur d'éducation musicale dans la région de Toulousaine et plus spécifiquement et bien dans le privé, puisque ce sera un peu ce que je vais partager tout à l'heure. Et je suis aussi formateur, alors pas de titre encore, mais en tout cas par la fonction encore davantage cette année, et donc sur le numérique plus précisément. Mmh.
Deux tweetos très actifs aussi, hein, tous les deux. Donc, si vous ne les connaissez pas, on vous donnera leur compte Twitter en fin d'émission. Là, toujours beaucoup de publications et de la belle orthographe chez Nico Guitar notamment. Alors, ouais. Donc, on disait tout à l'heure, Fabien, en présentant l'émission, que vous avez été les reporters spéciaux et excellents de Nipédu, notamment au printemps du numérique, alors si je me trompe pas d'ordre, c'est toi Nicolas Olivier. Je sais pas, c'est dur hein, de t'appeler avec le nom de famille. Nicolas Olivier qui a... Tu peux nous présenter un peu l'événement, où ça s'est passé, de quoi il s'agit, qui a organisé tout ça? Tu as la parole.
Merci. Alors, le printemps du numérique, c'est un événement qui se déroule jusqu'à maintenant tous les 2 ans. Donc là, c'était la 4e édition et c'est organisé par le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique. Donc ça s'adresse forcément du coup aux enseignants de l'enseignement catholique, autrement dit le privé, et donc ça rassemble tous ces enseignants, et j'ai envie de dire, il y a un gros soutien de la part de l'enseignement catholique et des établissements, puisque la plupart des participants sont des profs qui sont pris en charge financièrement de façon forfaitaire pour le transport et le logement. Donc je souligne cet aspect parce que c'est l'un des rares, enfin, des rares rencontres que j'ai pu voir dans lesquelles les enseignants sont soutenus par leurs établissements financièrement pour venir participer. Donc ça fait que des gens motivés viennent, intéressés par le numérique, mais qui sont soutenus, donc ils sont pas, je dirais, largués. C'est facilité aussi pour être libérés de cours pour y venir. Donc il y a, j'ai envie de dire, plein de choses qui sont mises en œuvre pour faciliter le fait que des enseignants puissent participer à ces 3 journées qui se sont déroulées pour cette année à Saint-Malo, le 16, 17 et 18 mars, sous un soleil absolument radieux. Donc en plus, on était au bord de la mer, dans un endroit très lumineux, avec une rotonde, c'était un espace ouvert en baie vitrée qui donnait sur la mer, et c'était vraiment excellent. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le rendez-vous national, je cite, hein, le rendez-vous national sur les questions éducatives et pédagogiques liées aux cultures du numérique. Et précisément, l'objectif cette année, c'était un petit peu de comment passer d'une technologie parfois insistante à une pédagogie augmentée, une pédagogie avec le numérique, mais ne plus finalement ou quitter un peu le focus sur la technique. Alors, est-ce que je voulais que je continue ou est-ce que je m'arrête là pour la présentation de ce PDN?
Non, c'est déjà sympa, on va y revenir hein, forcément. Peut-être faire le parallèle tout de suite avec l'événement Regard sur le numérique, où tu étais toi, Nicolas Luluerne?
Oui, alors Regard sur le numérique, c'est organisé par le Canopé d'Eure-et-Loire. En fait, c'est plutôt une initiative départementale. L'idée, en fait, c'est de voir un peu ce que font les collègues sur le terrain. C'est plutôt l'idée, c'est d'avoir des ateliers, des petites conférences, des forums sur le sujet du numérique. Et cette année, c'était particulièrement sur l'élève, le thème. Et ce n'était pas anodin parce que l'idée, c'était de mettre en avant plutôt la démarche que les outils. Souvent, quand on parle de numérique, on focalise sur l'outil numérique. Et là, c'était vraiment dire, bah voilà, à quoi va servir l'outil numérique dans le cadre de la scénarisation pédagogique. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans Regard sur le numérique, c'est qu'en fait, ça va rassembler un certain nombre d'acteurs. Donc, il y a des enseignants, mais il y a aussi la collectivité départementale ou les collectivités, donc le département. Il y a aussi un Fab Lab qui est venu cette année. Voilà, donc pour l'idée, c'était un peu sur le sharing, quoi, le partage. Comment on peut mettre à disposition du matériel et des compétences au service des écoles. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment construire un réseau au sein du département d'Eure-et-Loire, qui est un département innovant.
D'autres événements, là, on parle en mode club Nipédu, parce qu'en fait, il y a énormément et de plus en plus d'événements autour du numérique. Hein. Fabien, je pense à Educatis, il y a eu la semaine du cerveau, qui n'est pas un événement spécifiquement numérique, c'est vrai. Il y a eu la journée nationale de l'innovation. Bref, tout ça... Maintenant, on va dire que c'est bien rodé. Là, tous les 2-3 mois, il y a un événement autour du numérique, Fabien.
Ouais, bah, là, tu as cité quelques événements auxquels on a pu participer, assister de près ou de loin sur ce mois de mars qui était particulièrement dense. Éducatiste, Nico, je crois que tu y es allé le vendredi, il me semble. En tout cas, c'est ce que tu avais annoncé. Je parle à Nico.
Ouais, ouais.
Je sais pas ce que toi tu en as pensé. Alors je sais qu'on n'a pas l'habitude d'exprimer des opinions personnelles ici, mais j'ai entendu ici et là en rencontrant, il faut le dire, très peu de collègues dans les couloirs d'Educatis qui venaient pour une première fois sur un événement, on va dire, du numérique éducatif, comme tu le disais, Régis, et qui étaient assez désappointés par ce qu'ils y trouvaient. Donc, je pense qu'il faut peut-être apporter une petite précision sur l'objectif d'un salon comme Educatis. Je ne sais pas ce que Régis, Nico, je ne sais pas si Nico Leluard connaît l'événement, mais ce qu'on peut en dire pour les collègues qui se disent « Tiens, je vais participer à un événement numérique éducatif ». Je vais à Educatis, par exemple. Ouais, je sais, j'ai fait la question et c'est moi qui ai la réponse. Non, en fait, faites attention parce que les collègues que j'ai croisés ont pu dire que, et effectivement, il y avait beaucoup d'éditeurs et d'industriels qui étaient représentés. Et cette année, moi qui ai passé trois demi-journées sur Educatis, c'est vrai que on rencontre pas énormément de collègues qui, faut-il le rappeler, sont en classe sur ces moments-là. Et voilà, je pense que c'est surtout un moment qui est proposé aux éditeurs, aux industriels, comme on le disait, pour pouvoir se rencontrer, échanger, peut-être partager avec des personnes qui viennent plus de la sphère institutionnelle. En tout cas, c'est pas le genre d'événement que moi, personnellement, vous me direz, les garçons, je recommanderais pour un événement, pour découvrir l'univers du numérique éducatif au travers des pratiques et des praticiens.
Oui, pour moi, si je peux me permettre, tu touches l'élément important. Pour découvrir des praticiens et des praticiennes qui font du numérique, c'est peut-être pas effectivement le lieu le plus indiqué, parce que c'est quand même le grand marché de l'éducation. Moi, je le vis comme ça. Pas que ce soit négatif, parce qu'on y voit des choses, mais c'est vrai que c'est pas là qu'on voit le plus de praticiens, clairement.
C'est clair que c'est... Bon, sur un événement comme Educatis, c'est ce qui frappe, c'est beaucoup de matériel, quoi. Et comme le disait Fabien, c'est pendant un temps de classe, donc forcément, on voit pas beaucoup de praticiens, mais il y a quand même des conférences et des classes qui participent avec des choses intéressantes, même si ça reste, ouais, très industriel, en fait.
Ouais. Alors, juste, on aura le plaisir d'entendre toute l'équipe du Hackathon de l'éducation qui a été proposé par Make Sense et par la DNE. Super, super, super événement. Je pense que vraiment une formule hackathon qui, vous le savez, messieurs, tend à se répandre de plus en plus, quitte à en perdre son identité et ses objectifs premiers. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marketing pédagogique autour du terme de hackathon pédagogique. Là, on avait vraiment quelque chose d'extrêmement bien abouti, extrêmement bien construit, extrêmement bien encadré. Donc, vous aurez l'occasion d'entendre entre autres Smaïl Arabi, Claudio Simelli, que vous connaissez déjà, autour de cet événement, très très bel événement, un petit peu, j'ai envie de dire, par rapport à mon intervention de tout à l'heure, qui, je m'en excuse si elle a pu paraître un petit peu sèche, j'ai envie de dire une vraie bouffée d'air pédagogique au milieu d'Educatis. Régis, toi qui étais le régional de l'étape, tu nous parles un petit peu de ce que tu as vécu dans le cadre de la Semaine du Cerveau à Nancy ?
Ouais, à la Semaine du Cerveau, bon, on a participé à, enfin, on a été spectateurs, témoins, non, on a participé à une conférence de Bruno Della Chiesa, l'inventeur du terme de neuromythe, en tout cas le garde-fou des neurosciences, qui est très au fait et très en défense par rapport à ça, sur les neuromythes, et surtout, enfin, moi, ce que j'en retiens de sa conférence, assez remonté contre le monde de la simplification et de la vulgarisation. Il aime pas trop ça, notamment à travers les médias. Donc vraiment un garde-fou. Là, moi, je le connaissais justement grâce au cahier pédagogique où il parle de ça dans un des articles. Et donc très intéressant. On peut dire qu'on aura peut-être une émission avec lui, que ce serait sympa, ça lui aura...
Moi, je trouve que c'est un teasing de fou, ouais. L'idée, ouais, c'est que, bon, vous allez entendre l'excellentissime Baptiste Melgarejo, qui, moi, fait partie des gens qui m'inspirent énormément, un multifacette, une polyvalence d'enseignant, mais pas que. Il est, Nicolas, je m'adresse à toi, Nicolas Leluard, il est lui aussi en lycée pro, avec une Ulysse lycée. Eh bien, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce dispositif, c'est l'occasion de l'entendre. Et il a pu mêler une approche axée sur les neurosciences éducatives, puisqu'il prépare cette année un DU, il vous en dira plus dans la capsule, à l'Université du Grand Ouest, un DU de neurosciences éducatives, avec notamment Bruno Della Chiesa. Et Bruno Della Chiesa, très fatigué de son intervention, et si vous, un jour, vous pouvez vivre une intervention de Bruno Della Chiesa, vous comprendrez pourquoi, parce que c'est un véritable show hollywoodien, il ne vient pas de Harvard pour rien. À l'issue de cette conférence, on a réussi à négocier, Régis, on peut le dire, on l'espère, puisqu'on a rencontré Pascal Toscani il n'y a pas longtemps, une émission dédiée aux neurosciences éducatives avec Bruno Della Chiesa et Pascal Toscani.
Rock'n'roll, hein, j'ai envie de dire, les conférences de Bruno Della Chiesa, vraiment rock'n'roll. Nos reporters, on revient vers vous. Alors j'ai envie de poser la question parce que je vous l'ai entendu beaucoup poser, j'ai écouté toutes vos capsules aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez chacun là des événements que vous avez couverts, quelque chose qui vous a marqué en bien, en mal, ou une présentation particulière, ou quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas? Quel élément saillant vous retenez de cet événement que vous avez couvert et auquel vous avez participé surtout?
Moi, ce que j'ai retenu, c'est que, en fait, on travaille pas assez en réseau avec les autres. Il y a plein de choses qui se passent partout, et puis on a du mal à savoir vraiment, à identifier vraiment des choses comme ça. Et ces moments-là, c'est des moments où, en fait, on s'aperçoit que, juste à côté, à 200 mètres, dans le lycée d'à côté ou l'école d'à côté, il y a quelque chose qui nous intéresse. Et finalement, on n'a pas la curiosité de pousser les murs. Et justement, c'est ces occasions-là qui sont vraiment formidables. Nos collègues, en fait, font des choses vraiment super. Et c'est dommage qu'ils ne se mettent pas assez en avant, justement. On voit souvent les mêmes sur les réseaux sociaux ou dans les événements, et alors que tous les jours, il y a des petites choses qui se font, qui sont hyper importantes et qui font véritablement progresser les élèves. Et je crois que ça, vraiment, je suis ressorti de cet événement avec un maximum d'énergie et surtout une envie de partager encore plus grande, quoi.
Alors, un exemple, Nico, tu retiens un exemple que tu pourrais nous livrer, là?
Par exemple, sur l'utilisation de d'e-twinning, j'ai trouvé que de faire des bilans régulièrement avec une classe, de raconter ce que je fais, ça paraît tout simple, mais on ne le fait pas assez souvent. Alors je sais, ça fait un peu pédagogo, mais c'est un peu du freinet, quoi. Faire le bilan, envoyer une lettre, dire ce que j'ai fait, et puis recevoir une lettre pour savoir ce que les autres ont fait. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi, j'ai tout aimé, hein, mais ce que j'ai bien aimé, c'est tout ce que font les profs de PS, parce qu'ils font des choses qui sont impressionnantes. Même si je voyais à peu près ce qu'ils faisaient, on fait plus du tout, c'est plus du tout du sport comme on en faisait avant. Les élèves travaillent en autonomie, ils se filment, ils s'évaluent entre eux. Voilà, ils sont vraiment axés sur les compétences. Enfin, moi, c'est beaucoup de choses que j'aime, quoi. Et je trouve qu'en fait, on peut reproduire exactement, on peut s'inspirer de ce que font les autres, et ça peut s'appliquer au français, à l'histoire, je pense, à la musique, aux mathématiques, à toutes nos matières, quoi.
Il se passe tellement de choses bien dans les classes, et ouais, c'est pas forcément des gens qui se mettent en avant, mais il se passe des belles choses. Je pense à un petit coucou et un petit big up à ma collègue de l'école qui a écrit un bouquin avec ses élèves, écrit un bouquin. Voilà, un exemple, il se passe tellement de choses géniales et c'est pas forcément mis en avant volontairement ou pas. En tout cas, il se passe de belles choses dans les classes un peu partout et c'est bon de le répéter comme dit Fabien dans le chat.
En même temps, ouais, je pense qu'il y a une vraie culture professionnelle à créer et à développer, hein, autour de cette visibilité. Moi, peut-être que Nicolas, notre Nico, il pourrait apporter son éclairage là-dessus, mais qu'est-ce qui fait que tous ces travailleurs du savoir qu'on côtoie chacun tous les jours, qu'on voit faire des choses tout bonnement exceptionnelles, mais ils sont exceptionnels de routine pédagogique, comme aurait pu nous dire Régis dans un autre épisode de Nipédu. Voilà, on sent souvent qu'il y a cette difficulté à donner à voir, à partager ce qu'on fait, par pudeur, par peur de l'interprétation qui pourrait être donnée, attribuée à ce geste-là. Et c'est bien dommage parce que je pense qu'aujourd'hui, tu l'as dit, Nico, voilà, il y a ces figures sur les réseaux qui sont très présentes, mais qui sont aussi un relais et une façon de dire que tous les enseignants, ils sont dans cette production-là et dans cette capacité de création et d'inventivité pédagogique au quotidien.
Nico Durup, tu veux rien dire ?
Non, ça fait toujours penser au fait qu'on s'était toujours promis de faire une émission sur le numérique et le PS en général et que on l'a toujours pas faite.
C'est dans les tuyaux.
C'est dans les tuyaux.
Et nous avons beaucoup de tuyaux.
Ouais, c'est vrai.
C'est clair. Nicolas Olivier, et ça fait vraie radio quand on donne les noms et prénoms comme ça, hein, j'adore. Nicolas Olivier, vous prenez la parole sur votre événement, s'il
Ben, pour le printemps du numérique, je vais avoir un regard, je dirais, parcellaire, parce que j'avais beaucoup de monde à rencontrer et à voir. Ce qui peut-être m'a marqué en premier lieu, c'est l'image donnée de l'enseignement catholique. Alors désolé pour le terme, hein, on n'est pas du tout dans le prosélytisme, mais ça s'appelle comme ça, et c'est ce que c'est aujourd'hui en France. Mais il y a eu un effort énorme de fait sur le côté professionnel au niveau de l'image et au niveau de la vidéo. Et donc dans toutes les conférences, on avait des images d'une qualité inouïe, qui étaient souvent d'ailleurs réalisées par un BTS audiovisuel, avec des caméras partout qui circulaient. Et voilà, ça donnait vraiment une image pour moi qui ai vu pas mal de keynotes et de choses comme ça, qui suis habitué à avoir, je dirais, le waouh un peu effect. Ben là, j'en ai vraiment pris pour mon grade, parce qu'il y avait vraiment de la grande, grande qualité. Et des images qui n'étaient pas là que pour être belles, mais pour être signifiantes, pour avoir du sens et pour transmettre de l'émotion. On a vu des vidéos qui nous ont tous marqués, sur des vidéos d'élèves justement, des reportages, des choses comme ça, et qui ont été vraiment, voilà, c'était vraiment très très louable. Alors un peu moins fort du côté musical, mais en tout cas tout le côté artistique de l'image, de la vidéo et de la photo, hein, vraiment, parce qu'il y avait des expos qui étaient faites, étaient vraiment... vraiment, vraiment à souligner, à apprécier, ainsi que l'artisanat d'ailleurs, puisqu'on a eu aussi des BTS hôtellerie qui étaient là pour préparer les repas. Il y avait aussi des meubles qui ont été faits par eux, enfin voilà, tout un tas de choses intéressantes. Et puis ensuite, ben, ce qui m'a assez marqué finalement, c'était de ne pas voir toujours les mêmes personnes qu'on a l'habitude de voir, nous, ce petit microcosme sur Twitter, dans lequel on est habitué à se rencontrer dans les salons, dans tous les salons partout en France. Ben là, ça changeait un petit peu, il y avait d'autres personnes, et c'était intéressant d'avoir voilà, d'autres personnes qui sont tout aussi intéressantes, et je rejoins complètement le propos d'avant, où bah, des gens, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément un nom sur Twitter, mais qui font des choses absolument passionnantes et riches, et vous l'entendrez dans les capsules, justement. Voilà, donc moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est ce côté un petit peu bah, borderline, alternatif, que j'ai rencontré et que j'ai beaucoup apprécié. Et avec cette simplicité, ce syndrome, on a l'impression de se connaître déjà, même si on ne s'était pas forcément rencontré, mais on voit qu'on est quand même tous sur une pente, je dirais, qui va dans le même sens.
C'est un partage de valeurs aussi, c'est clair. Ça oui. Se sent dans ces événements. Ouais. Tu parlais des capsules, justement. Alors là, j'en dis, glisse un mot. Vous avez fait un travail extra, vous en avez fait plein. Du coup, on va avoir du mal à les mettre toutes dans l'émission. Ce qu'on va faire, on va en choisir, je ne sais pas, entre nous tous, là, pour compléter la suite de l'émission, et on mettra évidemment toutes les capsules en libre écoute, on mettra un lien Dropbox ou quelque chose comme ça, que ceux qui veulent aller plus loin pourront vraiment tout écouter. Si on met tout, ça fera une émission de 2 heures, et je pense que les auditeurs qui nous écoutent ils tiendront pas le choc. Mais en tout cas, si vous voulez les écouter, vous aurez accès à tout, évidemment, et ça vaut la peine, hein, je les ai écoutés, donc allez les écouter, même celles que vous n'aurez pas la chance d'entendre dans l'émission. On passe à la récré ?
C'est la récré !
Chers invités, vous avez préparé une récré ? Quelque chose de fun, de ludique, de... parce qu'on nous réclame ça en fait, hein. On nous réclame des récrés qui sortent du sérieux de l'émission, donc vous pouvez vous lâcher. Ah, je vois Nicolas Le Luerne, sa récré, j'adore. Vas-y Nicolas, on te laisse parler.
Bon, alors moi, ma récré, elle est assez simple. Cet après-midi, je suis allé me promener dans les rues de Lamballe, et il y a un petit Lamballe en Bretagne, hein. Pour ceux qui ne savent pas, je suis breton. Et j'ai trouvé une boîte à musique, j'ai le droit de citer la marque ou pas ?
Bien sûr.
Bon, pour une boîte à musique du célèbre quartier breton Pathé et Narf, et donc du coup qui fait la musique d'Amélie Poulain. Alors je vais. Alors pour moi, ça va être l'occasion. Je sais pas, vous avez dû entendre qu'il y a un bébé qui pleurait. Bah, c'est ma petite fille. Et du coup, on va passer quelques temps à écouter cette petite musique bien sympa. Et si j'ai le droit, j'en ai un deuxième. Je me suis pris de passion pour la photo Polaroid. Et donc, du coup, j'ai découvert un forum sympa qui m'a conduit à plein de conseils qui s'appelle Polaroid Passion. Et du coup, c'est hyper bien, surtout quand on est un amateur d'Instagram, de passer du numérique à l'analogique de temps en temps, bah, ça fait du bien. Et puis, on découvre que bah, on ne peut pas faire 10 000 photos d'un coup, il faut en faire une et une bonne, donc il faut réfléchir pendant longtemps. Voilà, c'était ma récré à moi.
Grand retour du Polaroid, là, j'en vois de plus en plus ici et là sur des tableaux en liège, et c'est intéressant ce mouvement que tu décris, Nico, sur voilà, le lien entre Instagram, Polaroid, il est vite fait, hein, même dans les effets, ouais, d'Instagram ou dans l'intention première. Je pense que prendre ton petit marqueur et écrire sur le petit liseré blanc en bas de ton Polaroid, bah voilà, c'est de l'Instagram inversé, quoi.
Nicolas Olivier, il rigole déjà derrière.
Ah oui, moi je rigole parce que ma récré, moi c'est le gros geek habituel, quoi. Donc moi je me suis chopé plusieurs boîtiers de réalité virtuelle en carton, les cardboard, et puis finalement j'ai craqué sur des gros boîtiers. Donc effectivement, on ressemble à rien, on a l'impression d'être un mec seul au monde avec son casque sur la tête. Alors forcément vous verrez pas, mais c'est juste énorme parce que les boîtiers en carton, on doit les tenir, l'immersion est pas top. Alors que là ça s'ajuste, il y a de la mousse, enfin c'est confortable à porter, et on est immergé complètement dans des jeux vidéo qui sont encore pas extra dans ce que j'ai vu, mais on s'amuse à tourner dans tous les sens, et les gamins en sont fans, et forcément les idées pédagogiques arrivent à foison, et donc ça va débarquer dans les classes à vitesse grand V, je pense, et puis on va se faire encore taper sur les doigts parce que les parents vont nous dire: ah là là, vous les isolez, vous les mettez seuls au monde dans leur casque. Mais en fait, bon, moi personnellement mon projet c'est justement de l'immersion pour l'ouverture, donc enfin bon, voilà, bon, ça va être sympa. Donc ça c'était le côté geek, mais après j'avais un coup de cœur musical, et puis la dernière fois je vous en devais un que je vous avais pas transmis, donc je me rattrape, et j'ai deux groupes, un qui s'appelle Snarky Puppy, vous trouverez ça sur YouTube, je mettrai des liens. C'est un groupe dirigé par Michael Leake, un bassiste, et ça groove un truc de malade, c'est une sorte de big band moderne absolument extraordinaire. Et le deuxième, c'est le Postmodern Jukebox, qui est en fait, là j'ai oublié de me noter le nom du pianiste, mais c'est dirigé par un pianiste. Ils reprennent en fait des tubes actuels, comme par exemple, vous avez Call Me Maybe, et j'en passe, c'est des meilleurs, il y a un que j'adore aussi qui est All About That Bass, et donc en fait, mais en version années 60, cabaret, jazz, et c'est très 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 sympa aussi, donc allez écouter, c'est vraiment de chouettes moments, aussi bien visuels d'ailleurs que auditif.
Eh mais c'est une vraie récré récréative, j'adore. Ah, Nicolas, une deuxième récré ?
Ah oui, oh, il y a un petit groupe qui vous fait plaisir parce qu'il vous rajeunit en vieillissant. C'est un groupe de rock de Strasbourg, je crois, qui s'appelle Last Train, et qui est un super groupe pour tous ceux qui ont pogoté dans les années 90 sur Nirvana. Ça va leur rappeler des souvenirs.
Ah ouais, je vois pas les affiches en plus de Strain. Qu'est-ce qu'il dit, Nicolas ?
En plus, qu'il n'était pas né, Nico.
Ah ouais, ça va.
C'est peut-être pour ça, Nico, que toi, tu as le cerveau calibré pour les casques de réalité virtuelle. Moi, je tenais à dire, ça, ce qui me permet de faire une petite récré, mais pas trop récré, parce qu'on reste en lien avec les événements, que lors de l'événement de l'antiséminaire du Collège des Bernardins, le défi des Bernardins, qui a été organisé par nos amis les Saventuriers, dans le cadre des Saventuriers du numérique, j'ai pu croiser Guillaume Rolland, que vous connaissez peut-être, qui est l'inventeur du réveil olfactif. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les garçons.
Ouais.
Il roule un peu sa bosse.
Ah oui.
Ouais, voilà. Mmh. Donc il a été lauréat du concours Google il y a 2 ou 3 ans, Guillaume, que je salue au passage. Et Guillaume m'a permis d'enfiler un HoloLens. J'ai pas le cerveau calibré pour l'HoloLens du tout, parce qu'il fallait courir après un dinosaure et j'ai failli rendre mon 4 heures. Donc je sais pas si. Wow, c'est quand même bouillant, quoi. C'est chaud, hein, Nico Guitar, la réalité virtuelle comme ça, les casques, non? Ça dépend de l'application ou?
Oui, ça dépend de l'application. Il y en a qui sont plus ou moins bien faites. Il y en a, effectivement, c'est un peu le prési mal fait, quoi. T'as l'impression que tu vas, voilà, au tournant. Mais après, bon, ça dépend. C'est quand même un marché qui est en plein essor, même si ça fait quand même plusieurs mois, voire années, que ça a démarré. Mais je trouve que plus les titres avancent, plus ça s'améliore. Reste maintenant à pouvoir avoir accès, nous aussi, j'ai envie de dire, à la création de contenu, parce que pour l'instant, on est trop dépendant des éditeurs, quoi. Donc, dès lors qu'on pourra nous-mêmes créer des choses, ça, voilà, on pourra, tu vois, bien les rendre pertinentes, etc. Mais c'est vrai que ça fait bizarre au début, puis surtout, ben moi, c'est plutôt au niveau du coup, tu vois, donner des coups à droite, à gauche, au bout d'un moment, tu te dis, oh, punaise, je vais un peu vite, quoi.
Alors,
Juste mais on en avait testé, nous,
à la NIPCONF.
À la NIPCONF, enfin, je suis tout seul à la première NIPCONF.
Ouais, ouais, moi j'étais malade.
J'avais pas que le choc. Hein.
Non, c'est clair. Je me tenais à la table sans rire. Peut-être qu'il est parti tout de suite. Quoi.
Alors, mais à notre décharge, nous avions comme logiciel un grand 8.
Ah oui. Forcément. Tout à l'heure, Nicolas, tu parlais, oh, c'est compliqué, Nico Guitare, tu parlais de d'application et d'intégration en classe de cette réalité virtuelle. Je vous ai parlé de Baptiste Melgarejo tout à l'heure, donc qui est dans un lycée pro à Sarreguemines. Il se trouve qu'il n'est pas tout seul dans ce lycée pro, il y a une équipe extraordinaire. Vraiment, ils sont hallucinants. Et il y a une professeure de mathématiques, Claire, mais j'ai peur de me tromper de prénom, mais j'ai envie de dire qu'elle s'appelle Claire, qui, elle, utilise déjà la réalité virtuelle ou dans un projet qui est global, bien sûr, elle a un atelier où elle invite, via un jeu sérieux, certains de ses lycéens et apprentis à détruire. En tout cas, c'est un simulateur de cerveau. En fait, on est propulsé dans le cerveau. Dans une phase de sommeil, comme vous le savez peut-être, pendant le sommeil, on a des neurones qui ne sont plus actifs, qui sont détruits naturellement. Et en fait, là, c'est un shoot them up. Régis, tu te chargeras de traduire ça pour les poditeurs. C'est un shoot them up où il faut détruire ces axiomes, ces neurones qui ne sont plus actifs. Donc, tu vois un exemple. Déjà, ces casques-là sont dans les classes. En fait.
Belle récréative jusqu'au bout, mais il faut rentrer en classe. Je suis désolé.
Le dossier Nipédu 2.
Deuxième partie de l'émission. Ben là, on avait envie de laisser la parole un peu libre à nos reporters et invités pour qu'ils nous présentent leurs projets, leurs projets en cours, leurs projets à venir. Mais je crois d'abord, avant de lancer dans vos projets, que Nico, elle, voulait rajouter quelque chose par rapport à la première partie d'émission.
Ah oui, tout à l'heure, en fait, j'ai oublié d'en parler, mais j'ai pas pu l'interviewer, c'est dommage. J'ai vu une enseignante, une professeure documentaliste travailler avec des QR codes et j'ai trouvé ça simple et hyper efficace pour les élèves, pour les orienter, pour leur mettre à disposition de la ressource de manière hyper riche. Et je trouvais que ça c'est un peu ces temps numériques hyper simples. Il n'y a pas d'effet waouh, mais pour les élèves, il y a tout de suite quelque chose d'efficace et qui leur permet d'avancer et de progresser, quoi. Voilà, c'est un peu cette innovation du quotidien que moi j'aime beaucoup. Quoi.
Ouais, et il se passe beaucoup de choses au niveau des profs doc là, avec le numérique. Hein. Il y a des choses super riches. Quoi.
Ils sont d'une richesse. S'il y avait une émission à proposer aussi au NIPEDU, ce serait sur les profs doc, hein, parce qu'ils proposent vraiment beaucoup de choses.
C'est vrai. Avant l'EPS. Dommage, Nicolas. Nico, tu vois, Nick.
Oui, si je peux me permettre, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Nico, c'est que j'ai pas pu le dire tout à l'heure par rapport au printemps numérique, mais je l'ai dit un peu dans l'intitulé, dans le but, et c'est vrai que ça s'est ressenti. Il y avait un vrai questionnement profond, voire insistant parfois, sur le côté technique, le côté waouh et le côté efficience pédagogique au printemps du numérique, qui était vraiment appréciable parce que à titre personnel, moi, c'est vraiment la dynamique dans laquelle je suis, c'est-à-dire rechercher vraiment l'efficacité pédagogique avant le nombre d'usages numériques et leur effet waouh. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant que beaucoup aient cette réflexion-là. Et du coup, voilà, ça fait plaisir d'entendre que, par exemple, le QR code qui est quelque chose d'efficace et quand c'est bien utilisé, c'est super, super efficient. Ça fait plaisir. Et je vous rejoins chez les documentalistes, il y a des choses extraordinaires et à Toulouse en particulier pour faire le chauvinisme jusqu'au bout.
Bien joué. Puisque tu as la parole, Nico, parle-nous de l'événement du moment autour de la musique et du numérique, alias Edmus Connect.
Exactement. Donc les 23 et 24 avril, qui se trouvent donc dans un week-end, le samedi entier et dimanche matin, nous nous retrouvons comme l'année dernière avec toute la team Edmus. Nous sommes pour l'instant à peu près 70 et nous aurons l'honneur d'accueillir le duo Nipédu. Alors pas le trio, mais le petit duo Fabien et Régis qui vont venir assister à cette deuxième édition d'Edmus Connect qui a pour prétention de rassembler des enseignants d'éducation musicale de tous horizons, mais pas que. On est ouvert aux autres enseignants également. Donc, il y aura du premier degré, il y aura des enseignants de diverses matières. Et l'objectif, bah, c'est sur, cette fois vraiment de se mettre autour de la table et d'échanger. La fois dernière, on était plutôt sous forme d'atelier. Là, cette année, on a vraiment envie de plutôt, justement, comme on disait tout à l'heure, aller voir le prof qui est dans ce petit patelin et dont on n'a jamais entendu parler, mais qui a sûrement des choses géniales à partager autour d'un thème. Il y aura une salle classe inversée, une salle îlot bonifié, une salle X, une salle Y. Et dans ces endroits-là, on va pouvoir eh bien, échanger ainsi. Et puis, on pense qu'on va mettre en place une sorte de petit musicathon. Attention, on va vous détailler tout cela. Et puis, on finira avec un marché de connaissances le dimanche matin, où là encore, on mettra sur la table un peu toutes nos compétences afin de pouvoir les distribuer et se les échanger les uns les autres. Donc, c'est vraiment une rencontre qui sera mise sous le signe de la bienveillance et du partage.
Et donc, pour les poditeurs qui ont envie d'y... Ah ben non, l'émission, elle sera... Je suis en train de réfléchir. Je pose une question qui sert à rien, en fait. L'émission sera diffusée après. Ouais, dommage. C'est pas grave. Mais j'ai une question beaucoup plus intéressante. Est-ce qu'il y aura la e-flûte que j'ai vue sortir le 1er avril? Alors, non, attends, blague à part, est-ce qu'il y aura des instruments bizarres comme tu as l'habitude d'en ramener à chaque fois?
C'est l'Apple Flute, déjà. Hein. Attention, parce que je me suis dit iWatch, tu vois, Apple Watch. Non, non, ils n'ont pas fait l'iWatch, ils ont fait l'Apple Watch. Donc, je me suis dit, ça devait forcément être l'Apple Watch. Eh bien, écoute, pour ne rien te cacher, je suis à deux doigts de te ramener un truc improbable, effectivement. Voilà, on verra bien. Il y en a un que tu connais déjà, je pense que tu as déjà vu, mais il y en a un autre, il y a des chances qu'il y soit. Et j'en dis pas plus, parce que si tu n'y es pas, vous allez être déçus.
Ah ben, on a hâte de voir ça et de l'entendre. Nicolas Leluern, de ton côté, tes projets en cours ou à venir, tes actus du moment?
C'est bon. Juste pour rebondir sur ce que disait Nico et sur ses trouvailles improbables, parce qu'il faut que vous sachiez que lorsqu'on se rend sur un événement dans lequel est Nico Guitare, il a toujours un objet musical la plupart du temps, très souvent connecté, assez improbable. Et ça me permet de te dire, Nico, que moi, tu as fait des émules autour de moi grâce à cette application Launchpad que tu avais présentée sur Atela. Voilà, donc j'ai un copain qui a plus de vie sociale à cause de Launchpad. Il mixait un petit peu quand il était jeune, à la fin des années 90. Il avait arrêté, il avait une vie très peu trépidante, tu vois, un petit peu monotone. Et là, ça y est, il est reparti grâce à Launchpad.
Alors écoute, ça me touche beaucoup et je vais te dire un truc. Bon, déjà GarageBand a été mis à jour et apporte la fonction proche de Launchpad, mais un petit peu plus poussé, j'ai envie de dire, un petit peu plus évolué. Et il y a une application qui vient de sortir, mais genre il y a une semaine maintenant, qui s'appelle Remix Live et qui est exactement le même principe que Launchpad, sauf que c'est d'autres sons avec d'autres types d'options. Donc en fait, c'est ultra complémentaire et typiquement, mes élèves sont habitués à Launchpad. Quand je leur ai mis Remix Live entre les mains, ils ont été ravis parce qu'ils ont dit « Oh, génial, de nouvelles banques de sons !» Mais ils se sont retrouvés comme si c'était... comme si c'était Launchpad. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'au bout d'un moment, Launchpad, quand tout le monde l'utilise, t'as toujours le même son, etc. Bah là, t'as justement un autre biais avec d'autres options et ça fait que ça permet pour nous en éducation musicale de rester sur le même principe mais de travailler d'autres types de notions. Donc c'est vraiment excellent. Entre la GarageBand, ce qui s'appelle les Live Loops, Remix Live et Launchpad, on touche là des objets musicaux instantanés absolument géniaux.
Nico Guitare, toujours à l'affût de la dernière nouveauté musicale. Si vous voulez tout savoir, allez, suivez ses sites et ses liens sur Twitter. Vous serez toujours au top du top au niveau musique numérique. Et toi, de ton côté, donc Nico L, des actus, des choses à nous présenter, tes projets, enfin, ce que tu as envie?
Alors là, dans mon métier de tous les jours, en fait, je suis bien tenté pour travailler avec Snapchat et Periscope. Donc, j'ai beaucoup aimé ce que fait Le Figaro, par exemple, sur faire des revues de presse sur un temps très court. Je trouve qu'en termes d'écriture contrainte, c'est très intéressant. Mais il faut que je voie la faisabilité. Et puis, faire des reportages, je suis dans mon lycée avec Periscope aussi. Donc, je trouve que c'est un outil qui peut être très utile. Et comme il faut éduquer aux médias et à l'information et aux réseaux sociaux, je trouvais que c'était un bon moyen de le faire. Et puis, je travaille aussi le 20 avril à Orléans. Il y a une journée contre le complotisme, entre guillemets. Et donc, je travaille sur une séquence justement pour montrer comment on peut initier les élèves à un, un esprit critique. Voilà, c'est ça en ce moment les choses sur lesquelles je travaille.
Ouais, ouais, chouette idée sur Snapchat, là, maintenant qu'ils proposent les stories et tout ça. Enfin, ouais, j'essaie de ça, m'intéresser ouais. un peu à Snapchat, mais j'ai encore du mal. Fabien maîtrise mieux que moi. Il m'a appris, il faut publier des choses pas très propres pour faire esprit jeune. C'est ça, Fabien ?
Non, c'est pas vrai. Moi, des fois, quand je dis à ma fille, descends, dépêche-toi, je lui prends en photo le portail qui est fermé à clé, puis je lui mets une petite tête de mort à côté. Puis... Si, si, je suis un Snapchatter fou, moi.
Ouais, moi, je découvre gentiment. Quoi. Bien, on se dirige vers la question du troll. Et ce
ah,
soir,
c'était en direct.
Troll...
C'était en direct.
Ouais.
Ah non, non, tu coupes ça. Attends, je pensais que comme c'était du off tout à l'heure.
Mais là, on est vraiment en origine. On passe à la question du troll. Et le troll ce soir, c'est Fabien avec une question trollesque. Alors la question troll de Nipédu, vous allez voir, elle est gentiment trollesque.
Elle est magnifique.
Vas-y, Fabien.
Ouais, merci Nico. Aujourd'hui. Chaque canopée, chaque académie, chaque circonscription organise ses événements numériques éducatifs. Mais n'ont-ils pas mieux à faire à l'heure où l'école rencontre des urgences autrement plus préoccupantes ? Oh, c'est bon. Question à nos invités, bien sûr.
Ah mince, la blague.
Ah bah ouais, attends, tu t'es fait troller. Imagine que c'est François Lamoureux. Voilà.
Pour travailler mieux, travaillons ensemble.
À plusieurs, c'est meilleur.
Hey, mais c'est une pub Crédit Agricole ou quoi, c'est
clair, quoi on ce a truc. Toute l'équipe Séguéla avec nous ce soir.
Oui. Ouais.
Ah, Nico Durup, je crois qu'il a mieux à dire.
Non, mais je me dis, moi, quand j'entends la question de Monsieur le Troll et qui dit qu'on aurait mieux à faire, je pense évidemment aux questions les plus préoccupantes, celles dont Nicolas parlait tout à l'heure, autour des théories complotistes, etc. Et je me dis que, justement, les instruments des complotistes, ben, c'est des instruments numériques. Et que, voilà, la boucle est bouclée.
Ah, non, mais il a retourné le troll, c'est beau.
Mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on est seul dans nos classes. Enfin, pour moi, être enseignant, c'est un peu comme le cyclisme. C'est un sport individuel qu'on court en équipe. Et malheureusement, l'équipe, elle ne fonctionne pas toujours bien. Et quand on est en face de nous, des discours qui sont quand même assez difficiles à entendre et voire dangereux, c'est vrai qu'avoir des trucs et astuces partagés avec des collègues et partagés aussi avec d'autres collègues, c'est important parce qu'il y a, on monte ensemble en compétences, entre guillemets, quoi, pour employer un terme très, très à la mode. Mais effectivement, ces moments-là sont indispensables parce que c'est des moments où on va échanger et on va pouvoir revenir en classe aussi avec des arguments, des techniques auxquelles on n'avait pas forcément pensé.
Pour ma part, je vais enfoncer une porte ouverte, mais il me semble qu'on est tous d'accord pour dire que le numérique, au lieu de nous éloigner, nous rapproche. Et quand on voit ce qui se fait, par exemple, avec les Mystery Skype ou des choses comme ça, on a des élèves qui sont amenés à communiquer avec d'autres dans le monde, à découvrir d'autres, à s'ouvrir à d'autres cultures. Et ce n'est qu'en découvrant l'autre qu'on peut l'accepter et écarter la tolérance et ne pas entrer justement... dans le fait de se renfermer sur soi et commencer à partir dans des voies qui sont un peu recommandables. Donc j'ai envie de dire qu'au contraire, le numérique peut soutenir ces choses plus préoccupantes.
Il peut revenir quand il veut, monsieur le troll.
Ouais, elle m'a bien plu, cette question rendue troll, là, et c'était bien, et les réponses surtout, évidemment. On arrive à la toute dernière partie de l'émission, inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
Inspiration, coup de cœur. De gueule. Inspiration. Coup de gueule.
Et là, vous vous dites, on arrive vers la fin de l'émission, ils ont toujours pas posé la question pour gagner les deux numéros des cahiers pédagogiques. Évidemment, dans la fougue de l'émission, on a complètement zappé. Donc, je rajoute la question ici en post-production. Alors, la question, elle est simple. Vous venez d'entendre la récré. Et quelle est la récré, la première récré présentée par Nicolas Leluerne ? On vous propose de donner votre réponse via Twitter avec le hashtag pourquoi pas jeNipédu, tout attaché. Puis on verra comment on gère. Donc deux numéros des cahiers pédagogiques à gagner, que ce soit en version EPUB, PDF ou version papier. À vous de jouer et je vous laisse pour la suite de l'émission. Alors chers amis, une inspiration, un coup de cœur, ou nous on aime bien, hein, ou un coup de gueule à présenter à nos auditeurs et à nous-mêmes. Peut-être commencer par Nico Guitare qui a le micro ouvert.
Ah, j'ai pas réfléchi. Écoute, bah, je vais te dire que mon inspiration, elle se déroule le samedi matin. Depuis deux samedis matins, il y a le Canopé Lille qui organise des petits ateliers sympathiques détendus auxquels je n'ai pas la chance de participer puisque je suis à Toulouse, mais qui, grâce au compte Twitter et aux médias qu'il utilise, notre cher Guylain Dominé, a commencé avec un atelier radio où j'ai découvert plein de choses alors que je pensais que je maîtrisais la chose, et non, il m'a fait découvrir plein de choses très très drôles, et notamment le fait de pouvoir faire une émission de radio en direct, ça on connaissait un petit peu, mais avec tes tweetos favoris, et les faire intervenir alors qu'ils sont à distance directement grâce au fait que tu te suis par Twitter. Donc voilà, des petites astuces comme ça que Guylain maîtrise sur le bout des doigts, qui tourne des perspectives inouïes, et puis il en a fait une sur la web TV ce samedi dernier, là, que j'ai pas pu suivre, hélas, mais voilà, à suivre le compte du Canopé Lille, qui est plein d'initiatives et d'ateliers sympathiques, c'est un peu le coup de cœur du moment. Je scrute le samedi matin le compte Twitter pour savoir ce qui va se passer.
Ah ouais, belle info, je savais pas, merci pour l'info. Nicolas L.
Alors, moi, j'ai plutôt un coup de gueule. J'en ai un peu ras-le-bol de voir des échanges violents sur Internet, en fait, là, avec les différentes réformes. Je trouve que les gens ont perdu la raison et qu'à un moment donné, on est dans des échanges qui sont juste irrespectueux. Et je profite des Nipédu pour dire qu'il ne faut jamais oublier que nos élèves nous lisent, quoi. Et qu'à un moment donné, c'est pas mal aussi de se retenir et qu'il y a des DM pour se régler nos comptes, quoi. Et puis, un coup de cœur, mais tout personnel, hein, c'est parce que je suis papa depuis 3 mois, et donc, du coup, je voulais faire un petit coucou à Mahana, même si elle va pas entendre aujourd'hui, peut-être qu'elle entendra demain. Voilà.
Fabien, tu voulais me mettre un petit coup de cœur ouais. J'ai vécu un moment waouh.
Ouais, ouais, ouais.
T'as vu le teasing?
Ça m'arrive de vivre des moments assez magiques, même assez souvent, mais aujourd'hui, c'était particulièrement magique parce que j'ai eu la chance d'assister et de participer au tournage de Capsule dans lesquels témoignait Anne-Marie Chartier. Donc, j'espère que vous connaissez Anne-Marie Chartier, qui est une grande historienne de l'école et qui est venue nous parler d'école, d'histoire de l'école et de pédagogie aujourd'hui. Et elle l'a fait comme... je suis désolé, hein, aujourd'hui je suis vraiment ras des pâquerettes au niveau des références, mais si vous regardiez Jean Rochefort dans Winnie l'ourson, c'est un peu du même niveau. Parce que franchement, je l'aurais écouté parler toute la journée. J'avais déjà lu Anne-Marie, bien sûr, de nombreux articles, et surtout des articles, aucun ouvrage complet, mais des parutions d'Anne-Marie. Mais de l'entendre parler de l'école comme ça, c'est vraiment, ça remet tout le monde à sa place. Donc voilà, je voulais faire un grand big up à Anne-Marie Chartier qui a été parfaite, et je suis très très content et très heureux d'avoir vécu ce moment-là.
Belle inspiration. Nico, notre Nico.
Oui. Ben, j'aurais pu le garder pour une récré pour une autre fois, mais je suis tellement sous le charme que je vais en faire une inspiration. Nous on commence nos vacances là, hein, Régis, et il y a un bouquin, d'ailleurs tu l'as vu la dernière fois que tu es venu, il traînait dans la cuisine, et c'est un bouquin que je peux conseiller à tout le monde pour les vacances. Il est d'enfer, il arrache tout, il est magnifique, il est génial, il est transcendant, on décroche pas. Il a un titre super accrocheur, et j'ai l'impression qu'il ravage un peu tout sur son chemin. C'est un bon polar, évidemment. Ça s'appelle La femme qui valait 3 milliards de Boris Dokmak, et j'ai l'impression que ce mec-là, on n'a pas fini d'entendre parler, parce que pour moi, c'est le premier livre que je lis de lui, mais il est déjà à la hauteur des plus grands, et mon plus grand jusqu'alors, c'était Elroy. Donc voilà, si vous avez l'occasion, foncez, plongez là-dedans, c'est vraiment génial. Voilà.
Ouais, t'as fait un teasing de la mort, là il va en vendre grâce à toi. Mon coup de cœur là que je viens de finir, je voulais en parler un peu sur Twitter, mais finalement je vais en parler dans Nipédu. C'est Le cerveau funambule qui m'a été proposé par Carabas 77, que j'ai acheté sur... je l'ai acheté. Et ouais, c'est vachement intéressant. Donc, c'est sur les neurosciences. Non, mais j'allais dire, je l'ai acheté sur Amazon, mais aucun sens. C'est hyper intéressant. Donc, c'est un bouquin sur les neurosciences, mais vulgarisateur. Alors, je sais qu'il y a notamment Fabien qui aime pas ce mot, moi j'adore, qui est à la fois vulgarisateur et plein de trucs et astuces, quoi. En fait, tout le long du bouquin, grosso modo, il file la métaphore du cerveau funambule qui doit être à la fois multitâche et concentré. Enfin, il y a des images. Ça m'a rappelé un petit peu, j'en ai déjà parlé, je crois, de Feynman qui vulgarisait comme ça les sciences de façon très compréhensible avec des images marquante, et il utilise notamment des acronymes. Je vous encourage vraiment à aller voir les PIM, les PAM, enfin des choses utiles au quotidien quand on veut un peu maîtriser son attention. Et il y a aussi notamment des choses intéressantes pour les élèves à utiliser en classe. Donc à la fois un versant, un fondement scientifique sur les neurosciences et des astuces au quotidien, ça se lit super bien. Allez vraiment jeter un œil. Donc c'est Jean-Philippe Lachaud, je crois que je ne l'ai pas dit, Le cerveau funambule chez Odile Jacob. Vraiment intéressant.
J'en profite, Régis, juste encore, je voudrais saluer le travail d'une association, puisqu'on a beaucoup parlé neurosciences ce soir et qu'on va continuer, je pense, à en parler dans les épisodes à venir, l'association Cogni Junior, donc tout particulièrement Roselyne, Jessica, Héloïse et Alicia. Allez voir du côté de Cogni Junior si vous avez envie de proposer des activités autour des neurosciences éducatives en classe. Sont pour la plupart des doctorantes de la psychologie expérimentale, de l'imagerie cérébrale, des neurosciences en général. Et voilà, elles se sont regroupées en association pour proposer des activités et des supports pédagogiques aux classes. Donc, Cogni Junior, C-O-G-N-I apostrophe junior. Vous les retrouverez dans les notes de l'émission. Elles sont juste géniales, mortelles. Voilà.
Et ben voilà, on arrive à la toute dernière petit bout d'émission où on demande à nos invités de nous dire où est-ce qu'on peut retrouver leurs actus et où est-ce qu'on peut les retrouver eux-mêmes sur les réseaux, si j'ai bien compris, Snapchat et un peu partout, les garçons. Nico L, par exemple.
Alors moi, c'est simple, sur Twitter comme sur les autres, c'est @profleluern. Donc prof et leluern, L-E-L-U-H-E-R-N-E. Voilà, sur Scoopy, Twitter, sur Snapchat aussi, je crois, Periscope, Vine, enfin j'essaye tout.
Nico Guitare.
Et ben pareil que Nico, et Nico Guitare partout, quoi. Et puis après mon site edmusipad.fr, et ne ratez pas le edmus-connect.fr pour la rencontre d'Edmus Connect qui arrive.
Et ben on a fait, je crois, une heure d'émission, hein. On avait dit qu'on essaierait de faire plus court. Là, on va vous rajouter, j'ai envie de dire, ne coupez pas votre lecteur de podcast. Arrivent donc les fameuses capsules enregistrées par nos invités, donc au printemps du numérique et à Regard sur le numérique. Et nous, on se dit à dans 2 semaines. Un grand merci d'abord, hein. Ouais, je sais pas si je l'ai dit du début de l'émission. Un grand merci à vous deux, les Nicolas, pour ce travail extra que vous avez fait sur les événements, là. Génial. Moi, je me suis écouté tout ça aujourd'hui de dernière minute, évidemment, comme toujours, mais super boulot. Merci beaucoup.
Ouais, et une expérience à renouveler surtout, hein. Là, les deux Nico montrent le chemin. On attend vos capsules, on attend vos couvertures d'événements. Venez en discuter avec nous, partagez avec les auditeurs. C'est ça, le club Nipédu. On espère pouvoir vous en proposer le plus souvent possible. Puis en plus, on se retrouve un petit peu entre copains. On dit des bêtises, on met des doigts dans le nez. Et puis voilà, c'est ça aussi, Nipédu.
Le son commence à craquer. J'attends le mot de la fin.
Oh là là, mais c'est...
Gardez quoi ?
Allez, tous ensemble, gardez
la pêche. La pêche.
Alors là, je suis avec Marielle et j'ai vu qu'elle avait une table sur le biode. Mais d'abord, Marielle, c'est qui ?
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Marielle Chamoiseau, je suis professeure d'anglais au lycée Marceau. J'enseigne depuis 8 ans. Et c'est Monsieur Robiol qui m'a appris que je faisais du biode sans le savoir, comme Monsieur Jourdain avec la prose. En fait, c'est un acronyme de l'anglais Bring Your Own Device, qui est lui-même issu d'une expression Bring Your Own Bottle pour les soirées un peu arrosées. Et en fait, il s'agit d'utiliser dans un contexte professionnel un outil personnel. Donc ça présente plusieurs problématiques en termes de sécurité des données, mais par contre aussi de nombreux avantages dans le contexte pédagogique. Donc moi j'ai découvert cette pratique, enfin j'ai eu l'idée plus exactement d'utiliser les portables des élèves l'année dernière suite à des échanges, et ça rencontre un succès important. Je suis plutôt satisfaite de cette utilisation, si ce n'est que je rencontre plusieurs problèmes pratiques afférent à cet usage, mais j'y viendrai après. Donc principalement, moi, étant professeur de langue, j'utilise le BIOD pour demander à des élèves des productions orales en interaction. C'est très économique en termes de temps, puisque en 10 minutes, tous les élèves peuvent préparer, enfin, réaliser un travail, un enregistrement. Et ça permet aussi une évaluation différenciée, étalée dans le temps, de plusieurs groupes, plusieurs productions. Donc je demande aux élèves, à travers des consignes très précises, de réaliser un scénario, une conversation, un échange quelconque. Et puis, ils me transmettent ensuite leurs fichiers par email. Donc, la récupération des fichiers est un des écueils, puisque parfois, ils jouent le jeu immédiatement. Parfois, il faut attendre le fichier, le réclamer. Ou parfois, il y a des problèmes de format, etc. Mais ça reste des problèmes assez marginaux. Le principal problème avec l'application Dictaphone des élèves, c'est qu'il y a une touche pause au niveau de l'application Dictaphone. Et de ce fait-là, ils peuvent contourner ma volonté de spontanéité, d'authenticité et de prise de parole en continu en faisant pause, stop très régulièrement. Et ça compromet un petit peu les tâches dans la mesure où ils peuvent préparer ce qu'ils vont dire, voire préparer la phrase du copain et l'enregistrer qu'une fois que c'est opérationnel. Ce qui dénature toute la tâche, en fait. Donc ça, c'est... Ouais, voilà.
Et dis-moi, parce que tu fais plein de trucs, là. Dis-moi, qu'est-ce que tu as constaté sur les effets en classe du BIOD?
Alors, les élèves sont très enthousiastes. Ils découvrent l'application Dictaphone, qui est très souvent méconnue. Les premières fois, ils ne savent même pas où la trouver. Ils sont contents de s'enregistrer, de s'écouter, de se réécouter. Je peux éventuellement parfois déposer une production sur Pronote, ce qui est très valorisant pour les gens qui l'ont réalisée. Une production en guise d'exemple ou de trace écrite parfois, ou de compte-rendu de séance quelconque. Donc c'est valorisant, ça les met en autonomie. Comme ils savent que derrière cette utilisation, il y a quand même une volonté évaluative de ma part, au-delà de la fonction d'entraînement évidente, ils sont mis en situation de s'appliquer, de fournir un travail sérieux et efficace. Il faut bien baliser les choses en termes de consignes et d'utilisation du portable, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dégainer le portable à tout va ou de le garder toute l'heure sur la table et de répondre à ses SMS et autres. Donc ça demande quand même une certaine vigilance de la part de l'enseignant, mais globalement, les élèves jouent le jeu, sont contents, ont l'impression de participer à un dispositif assez innovant, assez créatif et d'être en autonomie pour accomplir une tâche. Donc, et ils sont conscients, même s'ils la détournent, que ça a vocation à favoriser une prise de parole en continu, authentique, et que ça rentre pleinement dans le cadre de l'évaluation formative et la pédagogie d'entraînement. Donc,
alors dis-moi, tu as mis un pacte en place avec les élèves. Comment tu as fait? Est-ce que tu as amené le matériel des élèves comme ça, ou tu y as réfléchi, tu as rédigé quelque chose avec eux? Comment ça s'est passé?
Alors en fait, j'ai commencé à tâtonner de façon spontanée, pas tout à fait réfléchie à l'origine, hein, juste pour tester, hein, tout simplement, de façon assez clandestine dans mon établissement aussi. Et là, j'en viens à réfléchir à d'autres applications, d'autres utilisations de ces appareils. Et effectivement, je me rends de plus en plus compte qu'il va falloir encadrer les choses, informer ma hiérarchie et effectivement mettre en place une charte, d'une part sur un point de vue purement déontologique, utilisation des données, rassurer les familles, ne serait-ce que les informer à la base, mais aussi pour renforcer encore l'adhésion des élèves, notamment à ce principe qui m'est cher de préserver une authenticité de production, de prise de parole en continu, non préparée, non réfléchie, qui reste dans l'impromptu, qui respecte la nature impromptue et spontanée de toute prise de parole à la base. Donc c'est un challenge pour la rentrée prochaine.
Et finalement, si je vois bien, là, tu es en train de discuter avec Bruno. Est-ce que tu penses que travailler avec du BIOD, ça peut favoriser, on va interroger Bruno aussi, hein, ça va favoriser la collaboration entre les collègues?
Alors il faudrait que je prenne le temps de la réflexion. À l'heure actuelle, je constate quand même un grand décalage entre des collègues jeunes, modernes, connectés, qui ont pleinement conscience des enjeux et de l'importance d'associer le numérique à l'école, et des collègues un peu ancienne école, justement, qui freinent des quatre fers, qui ont peur, qui développent des craintes, qui sont tout à fait justifiées par ailleurs, hein, et qui donc se cantonnent à la pédagogie papier-crayon, qui effectivement ne fait jamais défaut, rarement, mais qui est beaucoup moins attractive pour les élèves. Il y a un côté gadget, par contre, dont il faut se méfier, et il ne faut pas tomber dans un usage démagogique, du biode ou quoi que ce soit.
Alors Bruno, il a sorti un petit appareil. Alors d'abord, il va se présenter, Bruno, hein, il va dire d'où il est, qu'est-ce qu'il fait. Voilà, mais il nous a sorti un appareil. J'aimerais bien qu'il nous raconte un peu comment ça marche, tout ça.
Bonjour, donc moi c'est Bruno Grenier, je suis enseignant de technologie au collège Jean Moulin, Chartres. Et donc par le côté des différents enseignants formateurs, on a découvert un petit appareil bien pratique de chez Outou, c'est le TripMate Titan. Et cet appareil permet de faire un point Wi-Fi local, d'une portée de quelques dizaines de mètres, ce qui peut être très pratique dans une salle de classe ou à l'extérieur de la classe pour permettre à des objets tels que téléphone portable ou tablette ou ordinateur portable de venir récupérer des données qui sont liées à ce petit appareil par une clé USB par exemple ou un disque dur, et également de venir y déposer d'autres travaux sur lesquels ils auront travaillé au préalable. Donc ce petit appareil permet effectivement de créer un micro-réseau par le biais du Wi-Fi dans un espace restreint.
Bah, dis-moi Bruno, en fait, du coup, tu n'utilises plus les données des élèves alors ?
Alors en fait, ça vient en complément, je dirais, de ce qu'on utilise habituellement sur le réseau du collège. Le réseau, c'est très bien quand on est avec le PC qui est relié au réseau sur le collège. Mais dès qu'on veut utiliser un outil mobile, on est coincé avec le réseau du collège parce qu'on n'a pas le Wi-Fi. Donc là, ça permet de pouvoir faire connecter tous les objets nomades en Wi-Fi avec ce petit appareil.
Alors, du coup, quels effets ça a sur les élèves, hein? C'est un peu ma journée sur les effets. Qu'est-ce que ça entraîne sur tes pratiques pédagogiques avec les élèves, sur les travaux qu'ils font? Quelle est la plus-value, finalement, de cet outil-là?
Alors, pour tout avouer, mon petit outil, ça fait 10 jours que je l'ai. Donc, avec les élèves, je n'ai pas trop pu encore le tester. Mais je vois énormément de choses. Tu fais une sortie quelque part, tu mets le petit objet dans ton sac. Les élèves autour de toi, ils ont la tablette. Ils vont récupérer un document. Ils écrivent dessus. Ils te le réenregistrent dessus. Et toi, quand tu rentres, tu as tout qui est sur ta clé USB et tu peux le réutiliser facilement. Dans la classe, si tu veux faire de la réalité augmentée, si tu veux utiliser des QR codes pour permettre en pédagogie différenciée de permettre à des élèves qui ont des problèmes de lecture de pouvoir accéder à des consignes par la voie de l'audio, eh bien, tu peux l'utiliser. Ils vont pouvoir flasher ton QR code et puis aller chercher une ressource facilement. Donc c'est ce genre de petites utilisations au quotidien qui, je pense, vont permettre aux élèves de pouvoir se sentir plus à l'aise, et on va pouvoir prendre un peu de distance avec les fils qui traînent partout dans le fond de nos salles.
Finalement, vous êtes des enseignants bricoleurs ?
Ah, il faut surtout être bricoleur, oui, pour être innovant dans ces domaines-là. Il y a pas mal de temps à passer à chercher comment ça fonctionne et ce qu'on peut en faire. Et puis après, ben, l'intérêt, c'est une fois qu'on a trouvé, c'est d'en faire profiter les autres pour pas qu'ils perdent tout ce temps que nous, on a pu passer à trifouiller et à bricoler. C'est peut-être un peu le but de notre présence ici aujourd'hui.
Vous êtes des facilitateurs, quoi. Alors je crois que Marielle voulait rajouter un petit truc.
Oui, je voulais aussi ajouter qu'en fait, je m'intéresse de plus en plus à la pédagogie différenciée et par atelier, puisqu'on nous parle de plus en plus de répondre aux besoins individuels des élèves, et que donc le biode est aussi à part entière un outil qui permet d'aller vers plus d'individualisation, plus de réponses à des problématiques individuelles, et on peut donc entraîner les élèves à des compétences variées au sein de la même heure de cours, sans se dédoubler, et donc la satisfaction de la part des élèves est évidente, sans compter que ça suscite aussi beaucoup de curiosité quand on présente des outils un petit peu modernes, innovants aux élèves en début d'année. À l'attention des profs de langue, j'ajouterai qu'il existe des répartiteurs de sons qui sont aussi très utiles, que je confie régulièrement aux élèves. C'est des petits gadgets qui coûtent 2 ou 3 euros sur eBay et qui permettent à 5 casques de venir se connecter sur le téléphone où l'élève dispose d'un fichier son et, ou vidéo, et donc de venir travailler comme en laboratoire de langue au sein de la salle de classe sans passer par des réservations préalables, des concertations entre collègues, etc. Donc c'est, en fait, c'est un assemblage de gadgets et d'outils qui permet d'être plus efficace et de développer son aura auprès des élèves.
Alors, pour continuer cette conversation, vous retrouvez-vous sur la toile ? Est-ce que vous avez un Twitter, un réseau social, un blog, un site ?
Alors moi, j'ai un Facebook, mais il est privé.
Sur le réseau Via Educ, on peut me retrouver.
Merci. Salut Sébastien et Virginie.
Salut Nicolas.
Bon, Virginie, c'est qui ?
Virginie, elle travaille au Lab 28, la cellule Innovation et Usage Numérique du Conseil départemental.
Et Sébastien, c'est qui ?
Et Sébastien, professeur d'éducation musicale et de chant choral au collège Les Petits Sentiers à l'UC.
Alors, je vous prends un peu à brûle-pourpoint, mais vous parliez d'une association, d'essayer de travailler ensemble. Sur quel type de projet ? Je crois que je vais commencer par Sébastien.
Alors en fait, moi je suis professeur principal d'une classe de 5e et on a un projet sur une banalisation d'une semaine complète. Deux ou trois situations défis pour ces élèves, histoire de créer vraiment un groupe et de les mettre dans des... face à des problèmes. Et donc, on discutait avec Virginie pour voir dans quelle mesure Nano pourrait intervenir sur une de ces journées.
Nano, c'est qui ?
Alors, Nano, c'est Nao. C'est un petit robot humanoïde qui permet de vulgariser un peu la programmation informatique auprès des jeunes et des moins jeunes. Et du coup, effectivement, dans le projet de Sébastien, il pourrait y avoir un pan programmation numérique qui pourrait être ludique avec notre petit robot.
Et c'est quoi la plus-value d'un robot et de la programmation pour des élèves dans une semaine comme tu l'envisages, Sébastien ?
Alors, c'est une classe où il y a quelques soucis d'investissement et l'idée, c'est de montrer qu'avec un petit peu d'entraide entre tous, on peut arriver à des choses auxquelles on ne pense pas. Et effectivement, la programmation d'un petit robot, c'est quelque chose qui paraît assez complexe et difficile pour des élèves de 5e. Pour autant, on verra bien que... avec un petit peu de force, d'énergie, de courage, les élèves y arriveront sans trop de difficultés.
Finalement, le numérique, c'est secondaire.
Ah, le numérique, c'est secondaire. Ça va venir mettre en évidence les qualités intrinsèques de chacun de nos élèves.
Et donc, finalement, toi, Virginie, quelle est ta mission, finalement, par rapport à tout ça, d'un point de vue pédagogique ? Comment tu envisages les choses ?
Alors moi, ma mission n'est pas forcément pédagogique. Le but, c'est d'accompagner et de faciliter le projet pédagogique déjà défini par le professeur avec les outils adéquats. Et du coup, on est facilitateur sur l'apport de ces technologies innovantes.
Et finalement, tu accompagnes avec quels outils ? Est-ce qu'il n'y a que le robot Nao ou il y a d'autres structures prévues pour l'accompagnement des élèves avec le numérique ?
Alors là, on est en train de parler d'un projet spécifique qui pourrait se monter, mais oui, on peut imaginer d'autres outils à condition qu'ils soient au service d'un projet, une imprimante 3D ou des ateliers de code sur ordinateur, la fabrication de petits objets connectés qui est prétexte à parler d'électronique et de technologie dans leur construction. Il y a plein de supports qui peuvent accompagner les programmes pédagogiques des collèges et nous, on peut être là pour aider à faciliter l'usage de ces outils.
Alors Sébastien et Virginie, on vous retrouve où sur la toile ?
Sur la toile, nous, c'est le site du Conseil départemental, mais il n'y a pas énormément d'informations, mais surtout sur Twitter, donc VB Lab 28.
Et toi Sébastien, tu as un site, quelque chose ?
Alors moi j'ai un compte Twitter, Sébastien Bouvet, et après sur le site du collège, il y a bien évidemment toutes les réalisations de l'établissement et en particulier les miennes. Et donc on mettra la réalisation des élèves, c'est-à-dire donc une programmation de Nao, donc la programmation de Nao, la création de plusieurs petits jeux vidéo, le magazine et donc le site du collège, c'est Collège Les Petits Sentiers, je ne connais pas l'adresse.
C'est pas grave, on recherchera sur le net. Merci. Émilie Lebré, c'est qui ?
Alors, prof d'allemand au lycée hôtelier de Blois depuis 3 ans.
Alors, qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui à Regard sur le numérique ?
Alors, je présente notre projet e-twinning qui s'intitule « Alle zusammen, let's mange », donc « Mangeons tous ensemble » dans 3 langues, anglais, allemand et français.
Donc, en fait, tu as conclu un partenariat avec des établissements ?
Exactement. En fait, après un séminaire à Chartres, j'ai rencontré une collègue de Nogent-le-Roi, professeure d'anglais, et une collègue allemande, professeure de français et d'allemand. Et d'anglais, pardon.
Et en fait, e-twinning, ça sert à quoi ? Et c'est quoi ?
Alors en fait, e-twinning, c'est une plateforme qui permet d'échanger avec des collègues européens sur une thématique qu'on a choisie au préalable ensemble. Et ça permet aux élèves de communiquer avec des vrais Allemands ou des vrais Anglais.
Et est-ce que ça se conclut par un voyage ?
Et non, mais finalement c'est aussi attractif pour les élèves puisque c'est ce qu'on peut appeler une mobilité virtuelle en fait. Ils vont découvrir d'autres horizons, d'autres personnes et puis pouvoir échanger sur diverses thématiques.
En fait c'est une sorte de vrai correspondant.
C'est ça, sauf qu'il n'y a pas un correspondant attitré, il y a plusieurs classes en l'occurrence. Là ils ont deux classes partenaires.
Et quels sont les effets sur les élèves ? Qu'est-ce que tu constates ?
Alors, au niveau des élèves, une motivation à communiquer et moins peur de pratiquer la langue étrangère.
Alors ce matin, on en parlait un petit peu en aparté. Tu fais un peu du freinet finalement avec tes élèves. C'est la correspondance. Ils font un peu un bilan de tout ce qu'ils font en classe.
Oui, ils peuvent faire un bilan de tout ce qu'ils font en classe. Et ensuite, là, on avait un projet donc gastronomique où chacun peut aller, selon ses compétences, plutôt vers le design du flyer de notre restaurant, plutôt sur la présentation de notre personnel. Chacun peut montrer ses points forts, en fait.
Ok. Et Émilie Lebret, on la retrouve sur quel réseau social ?
On me retrouve sur Twitter, Lebret16, pour ceux qui me connaissent.
Merci, Émilie. Regarde sur le numérique, j'ai croisé Guillaume Long et bah, je vais lui demander, Guillaume Long, t'es qui ?
Alors moi je suis professeur d'EPS, donc d'éducation physique et sportive, en lycée professionnel à Philibert Delorme, un lycée des métiers du bâtiment. Mais j'ai aussi d'autres casquettes, je suis formateur dans ma discipline au niveau académique et je travaille aussi auprès des professeurs des écoles stagiaires dans le cadre de l'école supérieure du professorat de l'éducation.
Alors, la semaine dernière, je t'ai croisé aussi. Tu étais à la semaine de la persévérance et tu présentais un dispositif qui m'a interpellé qui s'appelle la classe augmentée. La classe augmentée, c'est quoi ?
Alors, l'idée de la classe augmentée en EPS, c'était un petit peu par le biais d'outils numériques, d'avoir une démarche d'enseignement innovante pour permettre aux élèves d'être davantage acteurs dans leurs apprentissages et puis de les accrocher parce que justement, la caractéristique principale de nos élèves en lycée professionnel, c'était il y a beaucoup d'absentéisme et d'élèves décrocheurs. Donc voilà, c'était un petit peu de présenter ce dispositif.
Et finalement, pour toi, c'est l'outil ou la démarche qui compte le plus ?
Alors l'outil est vraiment au service de la démarche d'enseignement le plus difficile. Après ces années d'expérience, on a beaucoup expérimenté, j'ai beaucoup expérimenté avec les élèves, c'est de pas partir justement dans l'outil magique. Le numérique serait magique et ce qui permettrait aux élèves d'accrocher et puis d'apprendre. Non, l'idée, c'est de vraiment l'intégrer à sa démarche d'enseignement pour que ça apporte une plus-value à différents apprentissages des élèves, aussi bien au niveau moteur, au niveau social, hein, par la collaboration avec les autres, et puis au niveau méthodologique aussi, avoir des outils méthodologiques.
Et quels effets concrètement tu as observé chez les élèves depuis que tu pratiques la classe augmentée ?
Alors, au niveau des effets, surtout l'effet principal, c'était par rapport à cette notion d'estime de soi. C'est-à-dire que, par exemple, l'utilisation de la la tablette en cours, déjà les remotive. Ils ont vraiment envie de s'investir sur des tâches qui sont pas faciles pour eux. Hein. S'observer, s'auto-observer, c'est quelque chose qui est compliqué en EPS, mais c'est ce qui permet d'amener vraiment du progrès moteur, parce que souvent ils ont pas conscience de ce qu'ils font réellement, et du coup l'outil vidéo par la tablette leur permet de vraiment se rendre compte de ce qu'ils font, et du coup derrière de corriger voilà un geste et de progresser. Donc ça, c'était voilà, c'était la première plus-value. Après, le deuxième pôle, on a beaucoup travaillé, c'est les espaces numériques de travail. Essayer d'avoir un enseignement un peu plus hybride pour toucher ces élèves à la fois dans le gymnase, en classe, mais aussi chez eux, à travers, voilà, maintenant ils ont accès à cet espace par leur téléphone, par leur ordinateur s'ils en ont chez eux. Donc on voulait aussi les accrocher davantage par rapport à ça.
Mais finalement, quand on y réfléchit bien, est-ce que l'élève est plus motivé ou plus engagé dans sa formation ?
Je dirais les deux, parce que déjà s'engager, faire le premier pas de l'engagement, c'est le début de la persévérance scolaire. Et après, l'idée, c'est que l'outil va permettre de les motiver, de les accrocher durablement. Et c'est insister sur ce fait, parce que pour qu'ils persévèrent, il faut d'abord qu'ils s'engagent, et pour après rester motivés et du coup s'engager durablement dans ce qu'ils font. Et donc du coup, l'enseignant doit aussi penser à ça. C'est-à-dire que derrière, il faut faire évoluer, amener de la progressivité dans l'usage des outils numériques. Au début, voilà, c'est des outils où ils ne vont pas manipuler beaucoup. Puis après, ils vont de plus en plus manipuler parce qu'ils maîtrisent un peu mieux l'outil, qu'ils comprennent aussi les enjeux derrière, hein, si on est sur le droit à l'image, des choses comme ça. Et du coup, ils vont s'investir plus durablement à la fois sur l'usage des outils, mais après, surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est en EPS. Et c'est sur le pôle moteur.
Merci Guillaume. On te retrouve où sur la toile ?
Alors sur la toile, tout d'abord, il y a un site EPS académique qui du coup répertorie un petit peu tout ce qu'on fait au niveau du numérique, donc sur eps.caorléantour.fr. Et puis, sinon, il y a aussi un site de veille qui s'appelle Café EPS. Là, c'est un site de veille pour les enseignants d'EPS où voilà, on essaye de mutualiser un peu toutes les pratiques que nous faisons dans les gymnases.
Merci Guillaume. Alors, on est à Regard sur le numérique et on a le directeur du Canopé Eure-et-Loir qui est avec nous, qui s'appelle Patrick André, et il va se présenter lui-même.
Bonjour, je suis Patrick André, directeur donc de l'atelier Canopé d'Eure-et-Loir. Notre mission donc à l'atelier Canopé, c'est l'accompagnement et la création pour les enseignants. Création pédagogique, bien entendu.
Alors Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as conçu Regard sur le numérique ?
Tout simplement parce que utiliser les nouvelles technologies à l'époque, lorsqu'on avait initier une manifestation qui s'appelait Animatis. On considérait que pour pouvoir favoriser les usages, il suffisait de témoigner entre collègues et que ce qu'un collègue faisait, un autre pouvait le faire éventuellement, évidemment avec un petit peu d'adaptation.
En fait, le but de Regard sur le numérique, c'est le partage d'expérience, c'est ça ?
Tout à fait. Et en même temps, de savoir qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui sont innovants et de savoir que même si on ne le fait pas dans l'instant, c'est quelque chose qui sera accessible pour plus tard.
Et est-ce que tu voulais valoriser des pratiques qui sont à la fois innovantes et compliquées ou travailler sur des choses simples ?
Bien évidemment les deux. Je pense que les choses simples ont un rôle important à jouer dans l'éducation, parce que c'est à partir de choses simples qu'on peut changer un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que ce qui est nettement plus innovant, nettement plus compliqué, c'est quelque chose que les enseignants doivent avoir en ligne de mire. Et c'est très important de les connaître.
Alors pour toi, en fait, est-ce que c'est favoriser les outils ou les démarches ?
Les outils ont tout à fait leur importance, mais un outil peut être utilisé d'une façon par un enseignant et d'une façon totalement opposée par un autre enseignant. Le plus important, bien entendu, reste toujours la démarche.
Merci Patrick pour cette journée.
Alors, on est jeudi, aujourd'hui le deuxième jour du printemps du numérique. On est à table, on est à la rotonde, il y a un temps magnifique, vous pouvez pas voir ça, mais on mettra des photos. Et je suis avec Marie Soulier, qui va m'accompagner pour poser quelques questions peut-être. Et puis j'accueille ici Jean-Luc. Alors Jean-Luc, qui es-tu ?
Jean-Luc, donc je m'appelle Jean-Luc Albinet, je viens de l'Aveyron et du Lot, ça s'entend peut-être un peu. Et donc voilà, je suis prof d'école de formation, ancien directeur de petites écoles, et je suis chargé de l'intégration du numérique à la fois sur l'aspect technique et pédagogique dans mon département, dans le premier degré.
D'accord. Donc en fait, toi tu es ici pour quoi en fait ?
Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir avoir l'entrée usage. Et de voir quelle est la cohérence, la pertinence par rapport à une utilisation de l'outil lié aux usages. Voilà.
C'est ça. Et alors, est-ce que tu as vu des choses dans ce sens aujourd'hui, hier ?
Aujourd'hui, oui, la conférence à laquelle on a assisté ce matin m'a beaucoup intéressé sur le fait que est-ce qu'on doit partir de l'outil ou des usages du territoire, des besoins en territoire. Donc les trois mots que je retiens qui me viennent maintenant, c'est bricoler, butiner, braconner, je viens d'entendre, qui m'ont beaucoup intéressé parce que je crois beaucoup à ce passage-là obligé.
Alors pour recentrer, c'était une conférence de Serge Tisseron. Est-ce que tu échanges, c'est ressorti en fait après, c'est ça, sur la plénière, hein.
C'était pas Serge Tisseron, c'était le chercheur à l'université de Rennes, je ne me rappelle plus son nom. Voilà. Voilà, on le retrouvera. Donc qui a présenté un peu le thème, c'était la fracture numérique aujourd'hui. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup Jean-Luc. Du coup, est-ce qu'on peut te trouver sur le net ? Tu es un peu présent ou pas forcément ?
Je suis sur Twitter. J'anime aussi les sites régionaux, départementaux. Voilà, je pourrais donner aux besoins des références de sites.
Super, je te remercie Jean-Luc. Et j'enchaîne avec François. Alors François qui est sur Twitter, qui est co-réfléchir. Et on va te laisser te présenter François. Qui es-tu ?
Eh bien, je suis François, enseignant en CM1 et référent numérique pour le diocèse de Tours.
D'accord. Alors qu'est-ce que tu fais là toi ?
Eh bien, moi je suis venu rencontrer des gens et j'ai le plaisir de te trouver enfin.
Et plaisir partagé.
Et puis me former en suivant toutes ces conférences et en rencontrant toutes ces personnes. Et puis prendre contact, voilà.
Ouais. Alors du coup, pareil, même question que Jean-Luc, qu'est-ce qui toi t'a marqué dans ces quelques jours, un atelier, un exposant, une conférence ?
Alors, pour l'instant, je suis très impressionné par la qualité des vidéos et puis des conférences qui nous sont données. Je reprendrai effectivement le rôle de l'enseignant qui doit être un butineur, un bricoleur et un braconneur. Sur le rôle aussi qui est très important maintenant de la formation horizontale plus que celle qui est verticale, ouais, et qui ne répond pas forcément aux attentes des enseignants.
Tout à fait. D'accord, ben merci beaucoup. Donc pareil, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter, toi ?
Co-réfléchir, et puis j'ai un blog aussi, co-réfléchir le blog.
D'accord, très bien. Alors j'ai oublié de vous poser une question à tous les deux. C'est un peu quelle est votre actualité aujourd'hui ? Quels sont vos projets ? Alors aujourd'hui ou à venir ? Ou un projet que vous avez envie comme ça de nous donner ? Voilà, on va voir Seb tout à l'heure qui va sûrement nous parler de la web radio, j'imagine. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est chaud maintenant, Jean-Luc ?
Justement, je vais profiter de mon passage au printemps et je participerai demain à l'espace apprenant web radio pour essayer de lancer sur mon territoire. Et apparemment, je sais qu'on va m'interroger sur ça.
Mais vous retrouverez l'ensemble de son émission directement sur le fil SoundCloud, sous l'application, sur le printemps numérique. Enfin, on va arroser la toile et aussi sur en bande FM, pour les plus nostalgiques de la bande FM, sur Radio Campus.
Super, merci. François ?
Moi, j'ai plusieurs projets. Cet après-midi, mes élèves vont réaliser une interview via Twitter. Et puis, nous réalisons aussi un travail avec le Musée des Beaux-Arts de Tours, à l'aide de QR code. Les élèves présenteront leur travail. Et puis, je travaille aussi avec Pitch, une start-up qui a créé une application pour écrire des histoires à plusieurs.
Excellent, tu peux nous en dire un tout petit peu plus ?
Eh bien, c'est la meilleure appli d'écriture collaborative. L'enseignant a un compte pour ses élèves, les élèves s'inscrivent. L'enseignant définit les objectifs d'écriture et tout ça est bien sûr très bien illustré. Et l'enseignant peut suivre et corriger le travail de ses élèves quasiment en temps réel. Et bien sûr, on peut apporter des compliments, agrémenter le travail.
Excellent, on va mettre ces liens, c'est très intéressant. Merci beaucoup à tous les deux et puis bon printemps du numérique. Alors, ok, on est en train de parler de Fabien, hein, parce que forcément, on présente Nipédu. Et donc, on est là encore à Saint-Malo, toujours le premier soir, hein, on est mercredi soir. Et on a retrouvé deux copines de Twitter qui sont là. Et on va leur demander de se présenter. Alors, qui es-tu, Céline ?
Alors, je me présente, je suis Céline Frérot, je suis seule Frérot et je viens de Roanne, donc tout près de Lyon, 80 km de Lyon. Moi je suis professeure d'école, j'ai une classe de maternelle CP dans une toute petite école à deux classes, voilà, micro-école, donc j'ai 26 élèves, voilà. Donc je viens au printemps du numérique à Saint-Malo et je suis venue avec ma copine rencontrer des twittos et des pédagogiques, voilà, que j'avais envie de voir en vrai. Voilà. Je continue.
Écoute, on va demander à Anne de se présenter aussi. Qui es-tu, Anne ?
Alors, Anne-Heidi sur Twitter, je suis prof des écoles en CP. J'utilise des tablettes Android dans ma classe et je suis bien connue pour ça sur Twitter.
Excellent, excellent. Alors, comme Edouard m'a lâché complètement parce qu'il voulait faire l'interview avec moi, on va vous demander, les filles, du coup, Céline, t'as déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que vous faites là ? On est au printemps du numérique, pourquoi vous êtes là ?
Moi, j'avais vraiment envie déjà de lâcher ma classe et ça fait du bien. Arrêtez de rigoler, mais c'est vrai que ça fait du bien, un petit peu, de prendre un peu de la hauteur et puis de rencontrer et de partager ça avec des gens qui sont dans le même trip que moi, au niveau du numérique et de la recherche de tout ça. Voilà.
Super. Et toi, Anne ?
Un peu pareil que Céline, découvrir des nouvelles pratiques et puis surtout rencontrer les Twami.
Excellent, excellent. Alors, est-ce que aujourd'hui, alors c'était que la première journée, mais vous avez vu des choses qui vous ont marqué, qui vous ont intéressé ou au contraire qui vous ont un peu frustré, laissé sur votre faim ? Allez, on change. Anne.
J'ai beaucoup aimé l'interview de Philippe Mérieux.
Joli, oui, effectivement. Une interview vidéo, en fait, qui est issue du 4 heures de vidéo d'interview. Et ils ont monté un magnifique reportage vidéo, effectivement. Et ça va circuler sur le net. On pourrait retrouver ça. Il y aura les liens qui seront communiqués. Et toi, Anne ?
Céline. Pardon, c'est pas grave. Moi aussi, on a vu du super mobilier, des prototypes de l'école des Gobelins. Qu'on a testé et puis j'ai trouvé très sympa et des bonnes idées, c'était bien, pas mal, voilà.
Ok, alors pour finir, est-ce que vous avez des projets un peu chauds actuellement que vous souhaiteriez un peu partager ou des projets à venir
C'est des vidéos que tu récupères.
Eh bien, avec mes CP, on s'est lancé dans la programmation sans écran, alors j'aimerais bien continuer et voir ce que ça donne.
Excellent, tu peux nous en dire un tout petit peu plus ?
Eh bien, on a appris à programmer avec un jeu de cartes. Donc, les enfants utilisent le jeu de cartes où il faut bloquer un petit robot en plaçant les cartes tout autour et en faisant déplacer les gentils robots.
Excellent. Céline ?
J'ai trouvé une idée. J'ai trouvé. En ce moment, on est à fond avec le projet en tweet class sur les taxons. Donc on a commencé ça cette semaine. J'avais que deux jours pour mener ça, mais on est à fond là-dessus. C'est un super projet avec les Québécois, là, et vraiment top. Voilà.
Excellent. Édouard, un petit mot pour clore l'interview ?
Alors, les filles, on vous retrouve où sur Internet ?
On nous retrouve sur Twitter, bien sûr.
Et les comptes.
Ah oui, les comptes.
Ah ben, Anne-Heidi.
Anne-Heidi.
Allez, c'est le frérot.
Et le blog.
Ah oui, j'ai un petit blog si vous voulez vous perdre. C'est rapprendre.com.
Super blog. Immanquable. Merci beaucoup.
Nipédu.
Alors on est toujours jeudi, toujours au printemps du numérique, et on accueille un invité un petit peu spécial ou décalé, on va dire. Vous allez comprendre pourquoi. Alors dis-nous, qui es-tu ?
Bonjour, Franck Bettendorf, pour la direction diocésaine de Saint-Étienne. Je suis enseignant pour les enfants du voyage.
Très bien. Donc on a compris, mais qu'est-ce que finalement tu fais là ? Est-ce qu'il y a un lien avec le numérique ou pas ? Parce qu'on est au printemps du numérique.
Alors j'ai été invité par Françoise Maine. Et qui a regroupé les enseignants pour les enfants du voyage et qui donc nous a connus comme ça avec ma collègue Odile. Et on ne vient pas spécifiquement pour le numérique, mais peut-être parler d'élèves qui justement sont peut-être de l'autre côté de ce qu'on appellerait la fracture numérique.
Tout à fait, c'est l'envers du décor quoi. Et du coup concrètement tu vas présenter un atelier cet après-midi avec donc ta collègue Odile. Qu'est-ce que vous allez échanger dans cet atelier ?
Alors Odile va parler un peu des différentes familles de gens du voyage, de l'historique aussi. Et moi je vais plus parler des conditions de la scolarisation, comment une scolarisation peut être réussie ou pas.
Ah oui, donc on rentre non seulement dans la considération, sociétale de cette micro-société, mais en plus derrière on s'intéresse à la scolarisation. Et du coup dans le cadre du privé.
Oui, bien sûr, dans le cadre de l'enseignement privé, mais on est tous les deux dans des dispositifs qui peuvent travailler avec l'enseignement public, hein, qui sont en collaboration avec des équipes du public.
D'accord, donc là encore, on retrouve des gens qui travaillent avec le public et on voit que l'enseignement privé n'est pas fermé et vous en êtes le témoin. Alors du coup, il y a Odile qui est arrivée. Est-ce qu'on peut t'interroger entre deux bouchées ? Alors bonjour Odile, qui es-tu ?
Je suis Odile Sapin, enseignante en antenne scolaire mobile, cela veut dire un camion-école, qui se déplace vers les terrains des enfants du voyage et aussi sur le département du Rhône, à Lyon, vers les squats et les bidonvilles, donc les enfants en grande précarité.
Et du coup, tu as déjà répondu à la seconde question, et donc c'est un petit peu ce dispositif-là que tu vas présenter cet après-midi.
Oui, nous allons présenter le thème de l'école mobile. Et de quelle école mobile on peut présenter, et quel enseignement, quelles sont les choses que l'on peut présenter sur le plan numérique également, la fracture numérique.
Du coup, tu as quelques exemples comme ça à nous citer pour un peu y voir plus clair, parce qu'on imagine des choses, mais étant pas du tout dans ce milieu, moi je vois pas concrètement comment ça roule.
On présente surtout un public différent. Je crois qu'on va insister quand même sur la présentation de tous les tziganes finalement, hein, le peuple rom avec un grand R majuscule. Il y a plein de choses à dire et plein de notions à préciser parce que finalement dans les médias, on communique sur ce sujet certes, mais avec beaucoup d'imprécisions. Donc il y a des choses intéressantes à proposer et à faire réfléchir le public, même parmi les chefs d'établissement. Parfois, il y a l'école inclusive, nous sommes appelés tous dans nos établissements à accueillir des enfants différents, aussi bien dans le champ du handicap, mais parfois aussi d'origine sociale différente, ou bien d'enfants mobiles, donc d'enfants d'origine différente et d'habitats différents.
D'accord. Et du coup, est-ce que ce que vous faites est documenté, médiatisé quelque part sur le net ? Ça a l'air passionnant. Est-ce qu'on peut retrouver quelque part ?
Alors, à Lyon, nous avons un blog qui s'appelle La Classe Niglo, chez Overblog. Donc c'est très facile d'accès et cela regroupe toutes nos expériences pédagogiques, les descriptions, il y a des photos également, donc n'hésitez pas.
On va y faire un tour, c'est obligé. Merci beaucoup à tous les deux et bon printemps du numérique.